Et on se retrouve pour parler d'un sujet dont on nous reproche qu'on n'en parle pas assez, c'est le Bitcoin. Bitcoin, 110 000 dollars. C'est quand même spectaculaire. Alors, je me tourne vers vous, Sébastien Lavé, parce que ça fait combien d'années qu'on se connaît ? Une quinzaine d'années ? Que vous me pompez avec le blockchain, la blockchain, dès le début, et avec le Bitcoin. Et donc, vous avez raison, et donc je me tourne vers vous et je me tais.
On a lancé avec Simon Poncerbel un fonds sur la blockchain d'actions bénéficiant du développement de la blockchain. Donc on y croit, c'est une technologie auquel on croit profondément. Le Bitcoin qui soit 110 000, c'est anecdotique. De toute façon, le Bitcoin est devenu un produit financier. Il y a des trackers, des ETF Bitcoin. C'est devenu un produit financier. Les marchés financiers en ce moment montent. Donc vous pouvez acheter du Bitcoin avec un x4 ou x5 et ainsi de suite, même des options. Donc, les marchés montent.
D'accord, mais déjà, ça intéresse les gens qui nous regardent. Vous pensez que ça va continuer à monter ?
Je suis incapable de donner un prix au Bitcoin. Okay. Donc, tous ceux qui vous donnent un prix au Bitcoin sont des charlatans.
Okay.
Comme ça, au moins, c'est clair.
Ah, c'est dit.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la blockchain. Ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation. C'est éventuellement les tokens. C'est ces sujets-là. Par contre, les vrais sujets pour les financiers, c'est tokenisation, c'est stablecoin. Donc, c'est toute une finance qui est en train de se mettre en place autour de la blockchain qui, au début, était réservé à des hurluberlus. La finance décentralisée, tout ça, ça n'intéressait pas grand monde, sauf que quand vous avez JP Morgan, quand vous avez Goldman, quand vous avez toutes les banques américaines... Toute la famille Trump, oui.
Même Mélania qui a son...
On pourra en parler des 500 millions de profits perso faits par Trump avec son Trumpcoin et le fait qu'il invite les 200 plus gros porteurs de Trumpcoin à la Maison Blanche. Petit conflit d'intérêts, mais il n'y en a pas. Non, c'est, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on va développer avec la blockchain au niveau financier. Je crois que c'est Robinhood qui a dit qu'ils allaient, donc une plateforme de distribution, qui a dit qu'ils allaient utiliser la blockchain pour vendre des actifs américains en Europe. Donc la finance mondiale est en train d'adopter, pas européenne. Hein,
quel est l'intérêt, Sébastien ?
Les coûts.
Donc, mais en gros, expliquer le mécanisme. C'est-à-dire que ça permet de court-circuiter...
Les banques. Et tout le système financier traditionnel. Voilà. Donc, moins de coûts, plus efficace et innovant. Et les banques qui disaient au début, va des rétros, j'en veux pas, eh ben, elles sont obligées d'adopter le mouvement parce que ça se fera sans eux. Quand vous avez Goldman Sachs qui est en train de créer une division spécialisée sur ces sujets-là, c'est pas des philanthropes. Hein. Et quand vous avez le niveau d'intelligence des gens qui aujourd'hui vont dans cette industrie, vous dites que c'est pas n'importe quoi.
Christopher Demguil, oui. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez PICTM. Mm-hmm. Est-ce que vous conseillez l'investissement dans les cryptos ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Ça n'est pas partie de notre spectre. On considère que par rapport à notre clientèle, c'est beaucoup trop risqué. C'est une poche qui reste très volatile. On peut aussi, alors c'est pas vraiment l'argument de poids, mais il y a aussi un problématique en termes de consommation énergétique. Et deux
éléments. C'est plus vrai. Hein.
Ah si, vous avez encore des dernières études qui montrent que c'est encore extrêmement important, même si ça a baissé. Et l'autre point, c'est effectivement comment prévoir l'évolution du Bitcoin. À un certain stade, c'était corrélé avec l'évolution du taux obligataire américain. On se rend compte que depuis un mois, c'est plus du tout le cas. En revanche, c'est toujours corrélé positivement avec le Nasdaq. Donc c'est très très dur de prévoir et d'intégrer ça dans un portefeuille.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'éviter ? C'est-à-dire que vous avez quand même... Moi, j'ai des gens qui m'en parlent tous les
jours. On n'évite pas la question, ça c'est sûr et certain.
Mais est-ce qu'on peut éviter le fait... Est-ce qu'on peut dire... Ben voilà, cet actif-là, pour des raisons, parce que je comprends pas, c'est ce que je fais, hein. On n'en fait pas. Mais est-ce que c'est possible, quoi? C'est devenu incontournable, quoi, pour certains.
Oui, mais c'est
déjà pour toute une génération d'investisseurs de 20 à 35 ans, je veux dire, le Bitcoin, ça fait partie.
Mais c'est une poche qui reste extrêmement volatile dans son portefeuille, oui. Et ça ne correspond pas à tous les types de clientèle, très clairement. D'accord.
C'est une nouvelle infrastructure. Le sujet, une fois encore, c'est pas d'acheter.
Non, je comprends.
Bitcoin.
Non, mais moi, c'est ma question. Je comprends que ce soit pas le sujet, mais enfin, c'est mon sujet.
Ouais, c'est. Pardon ?
Non,
mais en tant qu'investissement, effectivement, ce que je disais, c'est que je ne sais pas donner un prix. Par contre, il y a des choses comme l'Ethereum, il y a d'autres blockchains où là, c'est l'usage qui crée la valeur. Donc, il faut analyser toutes ces blockchains et se dire, celle-là, elle est intéressante, les gens vont l'utiliser. Et le token, donc l'élément qui est coté, dit si l'usage se développe, il faut acheter ça parce que fondamentalement, il y aura de l'usage et donc de la valeur. Donc, on peut faire une analyse fondamentale de plein de projets. Alors que le Bitcoin, c'est un produit structurellement financier aujourd'hui.
Emmanuel.
Alors, moi, je trouve justement que dans tous les produits, il y en a plein qui sont de l'arnaque, entre guillemets, c'est-à-dire sous un vernis crypto, etc. C'est en fait des boîtes qui lancent des produits exactement comme les autres, manipulables comme les autres, etc. Après, pour se raccrocher vraiment aux fondamentaux, moi, je pense qu'il y a deux tendances qui sont mais incontournables et qui sont inarrêtables, c'est quand même l'informatisation du monde, d'une façon ou d'une autre. Et moi, il me semble que la blockchain et les cryptos, ça procède de l'évolution continue vers un monde toujours plus informatisé. C'est une informatisation de la monnaie. Et puis l'autre tendance qui est très lourde, mais Sébastien l'a déjà parlé, qui me paraît incontournable, c'est la décentralisation. Donc informatisation, décentralisation, oui, fait que les infrastructures blockchain, le Bitcoin, qui est quand même différent, parce qu'on pourrait disserter pendant des heures pour expliquer pourquoi le Bitcoin, c'est quand même très différent aussi des autres cryptos. Moi, je pense que c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte, effectivement. Et en se moquant complètement et en avoir, mais sans se demander est-ce que c'est parce que ça va valoir plus ou moins. Je pense que c'est pas ça le sujet, effectivement, je suis d'accord avec Sébastien.
Au lancement d'Internet, Bill Gates avait dit on a un problème parce que les gars ou les filles les plus intelligentes du monde, elles viennent plus chez Microsoft, elles vont chez Google, elles vont dans les boîtes d'Internet. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, tu parlais de l'X tout à l'heure, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui se dirigent vers cette industrie aujourd'hui. Et ça, je pense que ça doit nous parler.
Léa ?
Ouais, j'allais faire un parallèle un peu mauvais parce que moi, j'y comprends rien au Bitcoin, mais quand je vois l'annonce extraordinaire de Christine Lagarde la semaine dernière, des 20 milliards qu'il faut déployer pour digitaliser la monnaie, je me dis que la partie infrastructure, effectivement, est intéressante. Le reste, honnêtement, en tant qu'investissement, moi, j'y comprends rien. Mais vous voyez, l'Europe fait des moyens colossaux.
On y comprend rien, mais quand vous avez des clients ou vous avez des gens qui vous disent, bah ouais, mais à force de me dire vous y comprenez rien, j'ai loupé le coche et j'aurais pu faire x100, c'est quand même...
Oui. Pour boucler sur notre première partie de discussion qui était quand même, il se passe quelque chose à cause de l'attitude des États-Unis et de Donald Trump.
Vous pensez que c'est un signe de fébrilité aussi
dans le système monétaire international. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de changer de système monétaire international? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la plus grande, les plus grands bouleversements dans le système monétaire international depuis 1971 et depuis que Nixon nous dit il n'y a plus de convertibilité? Et donc, vous voyez, le télescopage de tous ces débats, franchement, fait que, du coup, l'alternative...
Le Bitcoin est né post-2008. Hein, ceux qui l'ont créé, on ne sait pas exactement qui, l'ont créé post-2008. Pour que ça n'arrive plus et qu'il y ait un système qui soit indépendant du système
financier. Qu'est-ce qui vous arrive, Emmanuel? Vous avez dit un truc super intéressant.
Pour une fois, j'ai une bonne idée.
Ah ouais, je trouve ça génial.